La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue, bonjour. Et nous voilà repartis dans les grandes aventures contées où le réel, l'imaginaire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Laissons-nous embarquer, comme disait un grand conteur, Michel Lindenock, les histoires ne sont pas... La question n'est pas si c'est vrai ou si c'est faux. Les histoires ne sont pas faites pour être crues. Elles sont faites pour être mangées. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, bon appétit. Le sultan Mourad avait 3 fils. L'aîné s'appelait Ibrahim Pacha, le désiré. Le deuxième, Abdrahim Pacha, le serviteur du miséricordieux. Et le troisième était Hassan Pacha, le bou. Il advint qu'un matin, ce sultan vénérable, pris d'une inexplicable mélancolie, se coucha sur son lit et n'en voulut plus bouger. Au soir de ce jour, Ibrahim le désiré s'approcha de son père et lui demanda la raison de sa tristesse. Le sultan Mourad ne daigna pas lui répondre. Le lendemain, Ibrahim, le serviteur du miséricordieux, s'agenouilla près de sa couche et se risqua à baiser sa main. Le sultan Mourad ne parut rien sentir. Alors Hassan le Beau s'en fut chez le premier ministre du royaume, l'informa et lui demanda secours. Cet homme, habile et sage, vint au chevet de son maître et à son tour le pria de dire ce qui le tourmentait. « Je l'ignore, lui répondit le sultan. Je suis triste. Voilà tout. » Le ministre, méditant sur ces paroles, vint à penser que son sultan avait grand besoin de raviver son cœur dans la beauté du monde. Il l'invita donc à visiter les 40 jardins du palais. Il n'en était nulle part sur terre de plus riche ni de plus parfumé. Le sultan Mourad accepta de mauvais gré. Ses 3 fils l'accompagnèrent le long des allées. Il ne quitta pas un instant son humeur chagrine jusqu'au 40e jardin. Là, au milieu des buissons balancés par la brise, était un arbre prodigieusement déployé. Son feuillage était semblable à une nuée d'éclats de soleil. Mourad fut surpris. Demanda au jardinier quel était cet arbre. Ici-bas, il est unique, répondit le jardinier. Tous les jours, à 6 heures, un bourgeon lui pousse à la cime. À 7 heures, ce bourgeon éclot en feuilles. À 9 heures, des fleurs apparaissent. Et à minuit, un fruit. Alors un oiseau vient du fond du ciel et dévore ce fruit. Chaque jour, il en est ainsi. Quant à vous dire qui est cet oiseau jamais rassasié, je l'ignore. Le sommet de l'arbre est trop haut pour que je puisse le distinguer nettement. Je sais seulement qu'on le nomme Angakouch. À peine le jardinier avait-il ainsi parlé que l'œil du sultan Mourad s'alluma et que la vigueur lui revint à l'âme.
Lequel de mes fils me fera-t-il la joie de cueillir pour moi ce fruit ?
Hassan le Beau fit un pas en avant. Son père le remercia, l'embrassa, puis s'enfuit avec sa compagnie. Son garçon bien-aimé s'assit au pied de l'arbre et attendit. Quand la fleur apparut au faîte du feuillage, il se coucha sur l'herbe pour mieux guetter le fruit. Alors une fatigue inexplicable le prit et il s'endormit. Quand il se réveilla, il ne put qu'apercevoir l'oiseau Angakuch qui s'enfuyait au travers de la lune. Fort mécontent d'avoir failli à sa promesse de satisfaire son père, il décida de veiller une nouvelle nuit. Il vit germer le bourgeon, pousser les feuilles, le soir tomba. Il vit les fleurs, il vit le fruit, il vit l'oiseau venir sur l'arbre. Alors il prit son arc et sur lui tira une flèche. Il effleura son aile. Une plume tomba. Hassan la ramassa, l'examina. Sur cette plume, il découvrit des signes indéchiffrables, inscrits avec un art infini. Il courut porter la plume à son père. Son père s'extasia. Oh, que m'importe maintenant le fruit? C'est l'oiseau, Angakuch, que je veux. Lequel d'entre vous, mes fils, me l'offrira? Ibrahim Pacha le désirait, Abdrahim Pacha, le serviteur du miséricordieux, et Hassan Pacha le beau s'avancèrent d'un même pas. Tous trois s'en furent donc ensemble à la recherche de l'oiseau miraculeux. Après 3 jours de marche, ils parvinrent au seuil d'un vaste désert. Avait-il foulé sa poussière que s'éleva devant eux un tourbillon aveuglant. Ils tombèrent à genoux, les mains sur le visage. Alors de ce tourbillon surgit un homme colossal à la tête de loup. Comme Hassan se dressait et s'avançait bravement à sa rencontre, cet Tom Loup lui tendit une main velue et d'une voix tonnante lui demanda à manger. Le jeune homme lui jeta un croûton de pain. Le monstre se jeta dessus, le dévora et disparut dans la nuée vertigineuse qui aussitôt s'effaça. Les trois princes, les dents clouées par l'effroi, reprirent leur route. Ce soir-là, ils ne trouvèrent pas le moindre abri où se reposer et dormir à la belle étoile. Le lendemain, à l'heure où le soleil est au plus haut du ciel, ils parvinrent devant une pierre dressée sur laquelle des mots étaient gravés en hautes lettres. Ils se penchèrent sur elle et, joignant leurs têtes, ils lurent ceci. Qui voyagera sur le sentier dont la courbe s'incline à droite connaîtra un heureux retour. Qui voyagera sur le sentier qui va devant s'en reviendra peut-être sauf.
qui voyagera sur le sentier dont la courbe s'incline à gauche à jamais se perdra. »
Ibrahim dit « Je vais à droite. »
Amdrahim dit « J'irai tout droit. »
Et Hassan dit « Ben alors, il ne reste donc pour moi que le chemin sinistre. » Il s'en fut sur le sentier de gauche, la tête basse. À peine ses frères avaient-ils disparu aux horizons voisins qu'il aperçut courant vers lui parmi les cailloux brûlants du désert l'homme loup qu'il avait nourri. Ce monstre tout essoufflé et hargneux le prit par le bras et lui dit
« N'as-tu pas lu ce qui est inscrit sur la pierre du carrefour ? Que viens-tu faire par ici ?»
Hassan le repoussa sans répondre et poursuivit sa route. Alors l'hôte le suivit en grognant qu'il ne pouvait pas laisser seul dans les dangers qui s'annonçaient celui qu'il avait empêché de mourir de faim. À nouveau, il le saisit brutalement au poignet et lui dit
« Monte sur mon dos et dans 12 heures, tu seras au palais de l'oiseau Ongakuch. »
« Ah ? Comment sais-tu ce que je cherche ?» demanda Hassan, éberlué.
« Je sais. »
Hassan le beau éclata de rire et bondit sur l'échine de la bête qui aussitôt s'enfuit comme un souffle de brasque. Et ils arrivèrent au palais de l'oiseau Ongakuch. Le palais était gardé par des djinns effroyables. 2 veillaient à chaque porte et 3 portes étaient à franchir. Hassan et l'homme loup passèrent si vite entre leurs mufles et cuments que les monstres n'eurent pas le temps de lancer sur eux leurs griffes. Ils firent halte au seuil d'un couloir profond. 40 portes étaient face à face le long de ce couloir. Hassan descendit, mit pied à terre.
« Dans la 20e salle, tu trouveras 3 oiseaux. L'un d'eux est suivi, lui, que tu cherches. Prends garde de le saisir au premier coup de main et de fuir sans regarder derrière toi. Sinon, tu ne verras pas le prochain jour du monde. »
Hassan courut à la 20e porte, l'ouvrit. Au milieu de la salle ronde, au plafond voûté, il vit 3 oiseaux multicolores sur des perchoirs d'or et de bois magnifiquement ornés. Ils se tenaient immobiles dans l'unique rayon de lumière qui tombait de la cime. 2 lui tournaient le dos, le 3e lui faisait face. Il l'empoigna. Et comme il se retournait pour fuir, un éclair de soleil sur le perchoir l'éblouit et le désir le traversa d'emporter aussi ce chef-d'œuvre. À peine avait-il posé la main dessus qu'un tintamarre de cloches retentit. Il courut vers la porte 6. Djinn sortit des murs, se précipitèrent vers lui, abattirent leurs poings invincibles sur son dos et comme un fardeau négligeable l'amenèrent au roi qui régnait sur ce palais. Ce roi ordonna d'abord d'un geste agacé que la tête du prisonnier soit tranchée à l'instant. Puis, examinant le visage du condamné, il se ravisa et demanda au prince Hassan Pacha
comment il était parvenu jusqu'à ce lieu secret ?
Hassan lui raconta son aventure et lui avoua ce qu'il était venu chercher.
« Héroïque jeune homme !»
lui répondit le monarque en riant, autant moqueur que admiratif.
« Je ne veux pas priver le monde de ton beau courage. Je te propose donc un marché. Au-delà de la mer est une ville imprenable. Sur cette ville règne un prince puissant. Ce prince est le père de 40 filles.
Ramène-moi la plus belle.
Et je te donnerai l'oiseau Angakouch.
Hassan s'en retourna fort abattu vers l'homme loup qui l'attendait devant la porte du palais. Il lui avoua son imprudence et lui dit ce qu'il était maintenant contraint de faire.
« Misérable !»
lui répondit la bête, l'écrou grinçant de rage.
« Pourquoi n'as-tu pas suivi mon conseil ? Tu n'es pas digne de mon aide. Va donc et meurs, car tu ne survivras pas aux épreuves qui t'attendent. »
Hassan s'éloigna sans un mot. L'homme-loup le suivit du regard, puis remua la tête en grognant terriblement, le poursuivit et lui dit
« Allons, je veux bien t'aider à nouveau, mais prends garde. Si cette fois tu m'obéis pas, je fais le serment de t'abandonner à ton sort. Allez, grimpe sur mon dos. »
Comme il tranchait follement le vent au-dessus des vagues de la mer.
« La ville où nous allons est défendue par un monstre énorme, à 1000 têtes. Quand tu l'apercevras, si ton cœur ne s'emballe pas, si ton corps ne tremble pas, si tes dents ne claquent pas, nous passerons entre ses griffes sans éveiller sa méfiance. » Alors nous parviendrons au château des 40 princesses. Elles sont toutes endormies dans une même chambre. Tu choisiras la 9e couchée et tu l'enlèveras, surtout dès que tu auras jeté cette fille sur ton épaule. Ne regarde pas derrière toi avant d'être sortie du château.
Le monstre à 1000 têtes ne fut pas réveillé. Le portail du château fut franchi sans encombre. Hassan courut à la chambre où étaient les princesses. Il compta la 9e et la prit dans ses bras. Et comme il se retournait pour fuir, son regard fut attiré par une coupe éblouissante posée au pied du lit. Pris d'une furieuse envie d'elle, il voulut la saisir. Alors un fracas d'orage emplit soudain la salle. 100 serviteurs aussitôt accourus par les couloirs sonores cernèrent l'imprudent, le saisirent et l'amenèrent devant le maître du château, père des filles et prince du pays. Hassan tomba devant lui à genoux et lui tendit son cou. « Je mérite la mort, car pour la 2e fois j'ai failli à ma mission. Que votre sabre me fasse donc la grâce de m'ôter cette vie dont j'ai honte. »
Qui es-tu ?
lui demanda le prince intrigué par le sombre courage du jeune homme. Hassan lui conta son aventure, ses peines, ses fautes.
Je n'ai pas le cœur de tuer un fou aussi beau et obstiné que toi. Écoute, homme miraculé, sur la montagne voisine est un djinn. Dans l'écurie de ce djinn est le plus beau cheval du monde. Si tu m'apportes ce cheval, je te donnerai ma 9e fille et la coupe merveilleuse que tu as voulu me voler.
Quand l'homme loup à la porte du château vit apparaître le prince Hassan, bredouille et plus pâle qu'un ciel de crépuscule, il fut pris d'une telle colère qu'il saisit le prince Hassan au col, le souleva de terre, le mordit à l'épaule, le jeta dans la poussière et l'écrou écumant s'éloigna à grands pas. Hassan se releva, perclus et gémissant. L'homme loup fit halte, se retourna,
grogna en grimaçant. « Une dernière fois, je t'aiderai. Quel stupide animal je suis de m'être ainsi attaché à un enfant sans cervelle. Grimpe sur mon dos. »
Ils voyagèrent jusqu'au pied du mont où l'homme loup déposa son compagnon.
« Va seul maintenant, parmi les rochers de la cime, tu rencontreras une maison. Dans cette maison, tu trouveras un djinn endormi. Tu prendras les 3 clés qu'il porte à son cou. Avec ces 3 clés, tu ouvriras les 3 portes de ces 3 chambres. » Dans la première chambre, tu découvriras 10 clous en grand nombre. Tu en emporteras 19. Dans la deuxième salle, tu trouveras une longue corde de soie. Tu en emporteras 18 coudées. Dans la troisième salle, tu découvriras un puits. Au bord de ce puits, une mangeoire. Et devant cette mangeoire, le cheval. Le cheval qu'il te faut. Quand tu entreras, il hennira et cognera du sabot. Alors, tu attacheras la corde de soie à un anneau de la margelle. Et tu descendras au fond du puits. Le djinn, dérangé dans son sommeil par les remuements de sa bête, viendra voir pourquoi elle s'agite. Si tu prends garde à ne point te montrer, il ne verra rien d'anormal. Et il s'en reviendra dormir. Alors tu sortiras de ton trou, à nouveau le cheval hennira et cognera du sabot. Tu redescendras dans le puits avant que le djinn revienne. Si tu ne traînailles pas à te cacher, il retournera sur sa litière en grondant et bâillant. Autant de fois qu'il te faudra, tu sortiras du trou jusqu'à ce que le djinn, croyant à un caprice de sa bête, renonce à venir la surveiller et s'enfonce dans son sommeil. Alors, avec les 19 clous de la première chambre, tu cloueras l'endormi à la planche de son lit et tu t'enfuiras avec le cheval.
Chers auditeurs, eh bien cette fois, Hassan a tout fait sans aucune faute. Et quand ils furent à nouveau ensemble au pied de la montagne avec le cheval conquis,
veux-tu garder pour toi cet animal superbe ?
Ben, j'aimerais bien. Mais comment faire ?
Regarde, regarde bien.
Et l'homme loup ouvrit les bras, et d'un coup, se changea en un cheval semblable au plus beau du monde, juste à côté d'eux. Hassan livra au père des 40 filles cette fausse merveille, ce semblant de cheval le plus beau du monde. Puis il s'en fut avec le vrai cheval et la princesse convoitée. Dès qu'il fut sorti du palais, l'homme loup reprit son apparence première, rejoignit Hassan au bord de la mer et lui dit
« Veux-tu garder pour toi cette fille parfaite ?»«
Bien sûr, j'aimerais bien, mais... Comment faire ?
Regarde, regarde bien. »
Et devant Hassan, il y eut un brouillard, et de ce brouillard sortit la plus belle fille du monde semblable à l'autre. Hassan conduisit au maître de l'oiseau Angakuch cette fausse princesse et s'en fut avec le vrai cheval, la vraie femme et l'oiseau, comme il chevauchait sur le chemin de son pays, l'homme loup reprit son apparence première et le rejoignit.
Prends garde à tes frères, leur âme est mauvaise. Dans le désert où tu les as quittés, ils t'attendent pour te voler et te tuer.
Hassan ne voulait pas le croire.
Et il eut grand tort. Ses deux aînés, dès qu'ils le virent, se jetèrent sur lui, le dépouillèrent de tous ses biens et le laissèrent gisant sur le sable, les yeux crevés. Alors Hassan pria 40 jours durant, sans espoir de revivre, et la appela à la mort. Mais elle se refusa. Enfin, il se leva pour aller en mendiant aveugle sur les chemins du monde. Il fit un premier pas. La lumière revint dans ses yeux. Il fit un deuxième pas. Le ciel lui fut visible. Il fit un troisième pas. La terre à nouveau lui apparut, et sur la terre ensoleillée devant lui, l'homme loup.
Monte sur mon dos.
Ce compagnon fidèle le ramena chez lui. Les deux frères obscurs, voyant revenir le miraculé, prirent peur et quittèrent le palais de leur père. Nul ne les revit jamais. Hassan épousa la princesse conquise. Thank you. sultan Mourad lui remit la charge du royaume et lui confia l'oiseau Angakouch qui portait inscrite sur ses plumes, en arabesque sacrée, toute la sagesse du monde. Celui que l'on nommait le beau, nouveau sultan, étudia sa vie durant cette sagesse dans la paix de ses jardins et parvint aussi à la perfection des hommes accomplis. Et qu'une lumière perpétuelle brille dans votre cœur, vous qui avez entendu cette histoire. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'ici et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.